Salut les marques et les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Et aujourd'hui, c'est le supplément SmackDown, votre podcast qui résume et analyse l'actualité du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Giscal et aujourd'hui, et oui, vous l'avez reconnu, je suis accompagné de l'amiral Armbar.
Comment salut ça va, l'amiral Giscal, salut tout le monde. Et ça va très bien. Très bien.
Toi. Je suis heureux de. Ça va, écoute, très heureux. Heureux de t'accueillir pour ce premier SmackDown de l'année.
Mais oui, joyeux Rousseff hier à toi.
Voilà, joyeuse Rousseff hier, joyeux Rousseff Day d'ailleurs, puisqu'il se trouve que SmackDown tombe encore sur un Rousseff Day cette année. Donc 2018 repart sur les mêmes bases. Donc voilà, bon écoutez, joyeuse, bonne année, meilleurs vœux à tous nos auditeurs. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous nous retrouvez avec plaisir. Nous en tout cas, ça nous fait bien plaisir de reprendre l'année avec vous. Et on va commencer ce SmackDown donc du 2 janvier. Si je ne dis pas de bêtises,
oui,
c'est ça. Le 2 janvier à Orlando, en Floride, à l'Amway Center. Donc la WWE était de retour à Orlando après le WrestleMania de l'année dernière. Et au menu ce soir, l'arbitrage vidéo à l'épreuve des tag teams. Le tournoi US continue. Les frères Marteau sont intouchables. Un retour féminin qui fait du bien ou pas, on va en discuter. Et Daniel Bryan perd la boule. Alors, on commence avec quoi ? On commence avec AJ Styles, le Phenomenal One qui va donc ouvrir le show cette semaine. Il arrive au centre du ring, il nous présente ses vœux bien évidemment pour la nouvelle année. Il nous rappelle que SmackDown, c'est la maison que AJ Styles a construit et qu'il compte bien continuer à être phénoménal et à faire briller SmackDown en 2018. Il nous hype un petit peu pour le Rumble, mais il n'oublie pas finalement de rappeler aussi un petit peu les événements de la semaine précédente. Vous vous souvenez, AJ Styles a perdu la semaine dernière contre Kevin Owens dans le main event. Beaucoup... par la faute d'un certain commissioner, mais qui justement se prend un peu pour le general manager, d'où le lapsus, Shane McMahon. Mais il n'a pas spécialement envie de parler à Shane McMahon cette semaine, il a envie de faire venir Daniel Bryan dans le ring, puisque ce soir il va y avoir un Sami Zayn contre AJ Styles en main event, et donc il aimerait avoir des explications un peu du GM. Le GM qui arrive, sous les Yes Chants, hein, comme d'habitude, pas de problème là-dessus, et Daniel Bryan, au moment de prendre le micro, n'a pas le temps d'en placer une, puisque le second GM du show, hein, Shane McMahon, arrive lui aussi, sous une pop, ma foi, toujours intacte. Hein. Orlando aime Shane. Shane aime Orlando. Hein. What's up, Orlando? Un peu de cheap pop. Il coupe le sifflet à tout le monde. Hein. Il prend la parole, il prend l'initiative. Il explique à AJ Styles, écoute, j'ai un peu merdé la semaine dernière, je le reconnais. Mes émotions ont pris le meilleur de moi-même, encore une fois. Je m'en excuse. Il se serre la pogne. Écoute, AJ Styles a l'air plutôt content des excuses du commissionneur, et Shane qui n'a pas fini et qui enchaîne et il dit que lui aussi veut parler à Daniel Bryan et il lui demande, écoute Daniel, ce soir tu as donc prévu AJ Styles contre Sami Zayn, mais est-ce que tu as prévu enfin de bannir Kevin Owens du ringside? Ça me semblerait être la meilleure solution à prendre, puisqu'ils ne peuvent pas s'empêcher de pourrir les matchs. Donc qu'est-ce que tu penses de tout ça? Et qu'est-ce que tu penses des rumeurs qui t'accusent de favoritisme à l'encontre du Yep Movement? Et justement, est-ce que tu ne serais pas en train de transformer le Yes Movement en Yep Movement? Ce à quoi Daniel Bryan, il considère pas du tout qu'il est en train de transformer le Yes Movement en Yep Movement. Il y a pas de favoritisme. Il dit que il y a pas de raison de bannir Kevin Owens, que Kevin Owens sera ringside. Ce à quoi répond que Shane, il dit, écoute, si Kevin Owens sera ringside, eh bien moi, Shane McMahon, je serai ringside aussi. Donc là, c'est la fête. Et Daniel Bryan qui dit, bah écoute, si t'es ringside, eh ben, moi aussi je serai ringside. Donc du coup, tout le monde sera ringside. Donc vous l'aurez compris, ce soir, ce qui garantira forcément la bonne tenue des événements, ce soir, vous l'aurez compris, AJ Styles contre Sami Zayn, il y aura bah, donc Daniel Bryan, Kevin Owens. Il y aura plus de monde autour du ring que dans le ring.
Donc
exactement.
Ça va bien se passer, forcément.
Allez. On va revenir sur le main event un peu plus tard, mais déjà, que penses-tu de ce segment d'intro et du coup, bah, voilà, des nouveaux développements de cette histoire d'auto.
Ouais. Alors la chose positive, c'est que le public marche bien, hein, puisque comme tu disais, gros chant forcément pour Shane, hein, qui est toujours populaire, mais aussi gros chant qui prend le dessus au fur et à mesure pour Daniel Bryan, donc l'espèce de rivalité, de feu, d'intrigue qu'on nous met entre Shane et Daniel, entre le commissionnaire et le manager, marche bien parce que le public aime les deux, donc forcément, on va y avoir à mon nez une sorte de déchirure quand les choses vont se passer un peu plus vite. Donc ça, c'est le bon point positif. Après, bon ben, ça montre bien, par contre, ce côté négatif, que ben, il n'y a actuellement qu'une seule vraie storyline à SmackDown, et c'est celle-ci, hein. Celle entre Shane et Daniel, entre Kevin Owens, Sami Zayn et Shane. Et maintenant, ça semble englober depuis la semaine dernière, et encore cette semaine, ça le confirme, ça englobe maintenant AJ Styles et le titre mondial. Donc ça regroupe, ça concentre finalement la seule vraie histoire, rivalité qu'il y a à SmackDown, où on fait des segments autour. Et en plus, le titre mondial. Donc j'ai peur que ça... Et on le voit un peu d'ailleurs, je pense, sur le show en entier... Ça déshabille Paul pour habiller Jack, quoi. C'est-à-dire que ben, à un moment donné, le reste semble vraiment assez fade. Il y a des petits trucs, évidemment. On verra, il y a des choses qui se passent au niveau de la Tag Team Division, au niveau de la Women Division, mais clairement pas au même niveau d'investissement, au même niveau d'intrigue, au même niveau de curiosité, d'intéressement que là. Donc tous les œufs sont un peu mis dans le même panier, ben, en espérant que le panier ne se casse pas la gueule et que ça ne fasse pas une omelette sur le sol, parce que sinon,
c'est ça.
Il ne restera pas grand-chose. Hein.
Ouais, non, mais
après,
c'est
moi, j'aime bien. Dans cette intrigue-là, on implique Kevin Owens, on implique Daniel Bryan, on implique AJ Styles. Moi, j'ai pas à me plaindre. Hein.
Ça fait plaisir.
Si je regarde SmackDown principalement pour les semaines, c'est pour ces trois mecs-là. Donc, moi, ça me va. Maintenant, c'est vrai que c'est concentré énormément Star Power, énormément de gens bons au micro et de ressorts scénaristiques de surprises au sein des mêmes segments. Quoi. Donc.
Ouais, c'est sûr que cette histoire phagocyte en effet un peu petit à petit de plus en plus d'intervenants, ce qui fait que bon bah comme tu dis, on se retrouve maintenant à une histoire à 5 et qui sait dans le futur il y aura peut-être encore d'autres personnes qui vont se faire absorber par toute cette histoire qui prend tellement de temps d'antenne que bah oui bah c'est là peut-être oui voilà la seule histoire, c'est un peu le problème, t'as raison. Bon, on en reparlera lors du main event, mais en tout cas, voici donc notre ouverture et on va enchaîner bah, avec une scène qui fait sa vie, qui la fait pas trop mal, mais qui c'est vrai n'a pas forcément peut-être de vraie histoire depuis la fin des Usos contre le New Day. Bah oui, donc vous l'aurez compris, c'est la scène tag team qui n'était pas en reste quand même cette semaine puisque nous avions un match pour le titre. Shelton Benjamin et
Chad Benjamin.
Exactement. Et Chad Gable qui avait gagné la semaine dernière contre le Rusev Day et le New Day le droit. Bah, d'affronter les champions en titre pour la ceinture. Donc, un match qui, écoute, ma foi, était assez plaisant, assez court. Donc, finalement, un rythme assez rapide, assez intense, avec un déroulé assez classique. C'est Chad Gable et Shelton Benjamin qui vont dominer pendant assez longtemps, hein, des frangins Usso. Et si je dis des frangins Usso, c'est vrai que c'est pas forcément innocent, puisque finalement, maintenant qu'ils ont plus leur t-shirt et plus trop de signes distinctifs et qu'ils sont tous les deux bien remis en forme, hein, parce qu'ils sont quand même, sacrément, ils se sont sacrément affinés.
Il y en a un qui a perdu beaucoup de poids, ouais.
Ouais. Et ben du coup, on a beaucoup plus de mal. Ben, on est un peu revenu à l'époque où ils étaient peinture lurée. On a beaucoup de mal à les différencier.
Moi, j'ai un tips pour toi et les personnes du Catch Up Universe. Hein. Le tatouage, alors ils ont tous ils ont des tatouages les deux, notamment un, je sais plus si c'est bras gauche ou bras droit, un énorme tatouage qui couvre tout le bras, un peu comme leur
c'est
cousin,
le bras droit ça.
Big Dog à Roman Reigns. Et il y en a un des deux Usos, je sais pas lequel par contre, il faudra vérifier lequel on saura, qui en fait
avec une croix, c'est
au
ça.
Milieu qui a une croix à la base. Donc du coup, l'autre n'a pas. Donc si
c'est
vous
vrai,
arrivez à
j'avais
terminer,
remarqué ça.
OK, celui qui a une croix, c'est Jay ou Jimmy, et ben du coup, c'est bon, après vous êtes là. De rien.
Et ben voilà, bon bah du coup maintenant il n'y a plus qu'à savoir qui est Jay, qui est Jimmy, et puis on sera bon. Mais en tout cas, toujours est-il que bah voilà, le match s'emballe un petit peu. Et que se passe-t-il?
Ouais, qu'est-ce qui se passe?
L'action sort un peu du ring. Un des deux frangins, du coup, manifestement, c'est Jay qui est neutralisé, renvoyé sur les barricades, ce qui permet à Chad Gable et Shelton Benjamin, comme je dis, d'isoler Jimmy, pardon, Jimmy, dans le ring. Doomsday Powerbomb. Et là, c'est Chad Gable qui fait le tomber. 1, 2, 3, l'arbitre sonne la cloche. Avons-nous des nouveaux champions?
Oui.
Ça semble un peu bizarre, oui, mais manifestement, l'arbitre n'est pas sûr de lui, les frangins Ousso réclament quelque chose, un second arbitre fait irruption, il rentre dans le ring, il annonce à son collègue, attends, 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 j'ai quelque chose à te montrer. Et alors là, fait incroyable, la WWE va pour une fois par an, utiliser l'arbitrage vidéo, replay sur le grand écran. Il semblerait en effet que donc là, c'est assez fort. Ni Chad Gable, ni Jimmy Uso n'étaient les deux hommes légaux. Ce qui fait que ni la personne qui fait le tomber, ni la personne qui reçoit le tomber n'étaient légales. Donc, grosse boulette de l'arbitre qui reconnaît son erreur et le match est redémarré. Évidemment, la fin ensuite ne fait plus trop de doute. Les Uso reprennent l'avantage malgré une nouvelle tentative de Doomsday Powerbomb, mais elle est savamment contré cette fois-ci par un super kick. Ensuite, c'est un festival de super kick. Vous connaissez la chanson Big Splash. Et c'est la victoire, dans les règles cette fois, des champions qui conservent leur titre, mais qui, grâce à ce petit artifice, en tout cas, permet voilà, de peut-être garder un petit peu Shelton, Benjamin et Gable dans la course. Qu'est-ce que tu as pensé de ce faux finish et puis de ce que ça implique un peu pour la suite?
Alors, le faux finish, je trouve ça un peu là, tiré par les cheveux, qu'à la limite, que l'arbitre se laisse embrouiller, comme tu l'as dit tout à l'heure, par les Ouzo, qui est Jimmy, qui est Jay. Une espèce de twin magic, comme faisaient les Bella, mais pas à leur avantage, mais à leur défaveur. Ok, mais là, que ce soit les deux, que ce soit dans l'équipe 1 et dans l'équipe 2, ça fait un peu gros. Voilà, surtout qu'il n'y a pas. Voilà, c'est. Moi, je sais pas. Je trouve ça un peu grossier. Après le match, bon, bah voilà, hein, c'est deux équipes qui catchent bien. Donc, voilà, les Ouzo, moi, je suis fan et on est fan d'ailleurs. Hein, si vous avez écouté ou regardé nos Catch Up Awards 2017, on a élu donc les Ouzo comme la meilleure tag team de l'année, hein, en 2017. Donc, toujours très plaisant de les voir dans le ring. Par contre, moi, ce qui me dérange, et c'est pas nécessairement que sur ce match-là, mais c'est en général à la WWE, je trouve que. J'ai l'impression, en tout cas, depuis l'été jusqu'à aujourd'hui, qu'on balance un peu trop facilement des matchs de titre
Ah, pas qu'un peu,
en
ouais.
weekly.
Surtout à SmackDown.
Ouais, y a eu un gros moment à cause des Survivor Series, puisqu'on n'avait pas les matchs de titre Survivor Series, alors du coup, on a bouffé pendant des semaines, etc. Mais je trouve que c'est dommage, parce que ça manque, ça enlève en fait de l'importance au teneur du titre, au match de titre. Et moi, j'aurais envie. Petit souhait, petit vœu pieux pour 2018, que dans la WWE, on redonne un peu du côté exceptionnel, rare, ou du moins réservé aux grands instants, aux matchs de titre. Et je pense que des champions peuvent avoir ouais, des matchs contre des gens sans forcément mettre leur titre en jeu. Et même s'ils ont encaissé une victoire contre d'autres personnes, c'est pas grave, il y a d'autres moyens de construire ça. La scène tag team, il n'y a pas que ces deux équipes-là. Je sais pas, moi je.
Ouais,
Je
non,
trouve
mais
que c'est un
c'est.
peu dommage et ça banalise la chose.
Surtout quand on se dit qu'il y a de plus en plus de pay-per-view en plus dans l'année.
Ouais.
Ce qui fait que. Et pourtant, cette fréquence, ouais, de match pour des titres se multiplie. On l'a vu encore cette semaine avec un match pour le titre intercontinental du côté de Raw. Et la semaine d'avant à Raw, on avait eu un match pour les titres par équipe. À SmackDown, c'est même plus que banalisé. Moi, j'ai pas souvenir. Alors, il suffit que je dise ça, mais il me semble que c'était un fait assez exceptionnel. La semaine dernière, nous n'avions pas de match pour le titre à SmackDown, mais il fut un temps, comme tu dis, c'était toutes les semaines, on était sûr d'avoir soit la ceinture US, soit la ceinture féminine, soit la ceinture par équipe qui était défendue. Et c'est quasiment tout le temps comme ça. Alors, peut-être que ils avaient un petit peu peur que cette longue période entre bah finalement le dernier pay-per-view qui était quoi qui était Hell in a Cell non Clash of Champions pardon.
Ouais.
Clash of Champions et le Royal Rumble qui est encore loin hein, parce que c'est fin janvier hein, donc il y a encore 3 SmackDown après aujourd'hui pour continuer là-dessus donc ils avaient peut-être un petit peu peur voilà que les choses s'essoufflent sachant que ils sont partis sur une stratégie de 2 matchs pour le Rumble, 2 Rumbles de 30 personnes donc du coup la carte va être très réduite, on peut être sûr à 200% quasiment que les titres par équipe et les titres secondaires ne seront pas défendus
bah,
à part.
Si, ils sont dans le kick-off. Le pré-show,
peut-être.
Comme ils l'appellent
ouais.
maintenant. Mais ouais.
Donc du coup, voilà, ils veulent peut-être un peu combler le vide, mais je suis d'accord avec toi qu'il y a d'autres moyens de le faire.
Ça marche pas, je trouve. C'est banalisé. À mon avis, c'est mon ressenti personnel. Et oui, on n'est pas à la New Japan, comme nous dit Guillaume sur le chat. Hein. D'ailleurs, salut Guillaume et salut Maxence. On n'est pas à New Japan où les titres sont défendus très rarement. Mais je pense qu'il y a un juste milieu et ouais. WWE aurait intérêt à un peu gagner du temps, monter plus en sauce, en fait, monter plus d'intensité ou d'attente par rapport au match de titre. Voilà. Je pense qu'on pourrait réintégrer finalement un avantage du champion qui perd pas le titre par disqualification ou par count-out, mais juste par le fait que il n'a à le défendre qu'assez rarement. Quoi.
Ouais, je suis assez d'accord.
Du moins plus rarement qu'aujourd'hui. Et pas en weekly comme ça, en opener en fait. Tu vois, enfin, un opener d'un weekly, les matchs tag team, merde. C'est un peu dommage, surtout que bon voilà il y a un roster qui est partie du roster qui est pas utilisé encore donc c'est pas comme s'ils étaient obligés de.
Non, mais en effet, c'est un problème récurrent. On va voir si 2018 change ça, mais bon j'ai pas trop l'impression que ce soit la direction. Non. Bon, en tout cas, on va continuer chez les équipes et puis puisqu'on parle justement, il n'y a pas que 2 équipes à SmackDown, il y en a même une qui va commencer à être difficile à ignorer dans la course au titre, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les frères Matraqueur, les frangins Marteau, les Bludgeon Brothers, vous les appelez comme vous voulez, les Bludgeon Brothers continuent leur sac, leur siège de SmackDown, leur mise à sac de la division en atomisant une nouvelle fois, cette fois pas seulement la Fashion Police, puisque alors ils avaient un rematch cette semaine contre la Fashion Police qui avait été bookée de manière un peu comique par The Ascension, hein, les meilleurs amis de la Fashion Police, qui avaient dit pas de problème, la Fashion Police va prendre sa revanche la semaine prochaine, on va s'en assurer et tout, machin. Donc la Fashion Police s'est une nouvelle fois fait démembrer, cette fois-ci avant même la cloche. Hein, les Bludgeon Brothers n'ont même pas attendu que le match démarre. Ils ont saccagé le pauvre Tyler Breeze et Fandango, ce qui a entraîné l'arrivée de The Ascension sous son thème qu'on n'avait pas entendu depuis un petit moment d'ailleurs. Ils arrivent et alors là on se dit est-ce qu'il va y avoir un choc de titans?
Bah oui.
Non, pas du tout. Connor et Victor se font dérouiller également, donc double crucifix powerbomb, des big boots, ça dégage. Donc les Bludgeon Brothers sont intouchables, indestructibles, inarrêtables. Après une série de squash, ils viennent donc de balayer d'un revers de main deux équipes de la low card de SmackDown. La prochaine étape, ça va commencer peut-être. Ça va être dur de leur renier la route vers le titre là si ça continue.
Bah voilà, c'est très bon symptôme de ce qu'on disait à l'instant, c'est que du coup on veut monter en power ranking dans l'échelle la hiérarchie de SmackDown Division Tag Team les Bludgeon Brothers plutôt que de prendre le temps et de dire ok on fait ce segment rigolo à la Fashion Police avec The Ascension qui book etc. Là sur le second squash avant que le match commence, Ascension débarque. Et on a un début d'affrontement.
Hey.
Même si, allez, à la fin, les Bludgeon Brothers sont ceux qui sont dans le ring et qui semblent être plus forts. Mais qu'ils commencent un peu à vaciller. Parce que les Ascension, c'est deux gros bébés quand même. Hein.
Hey,
c'est,
ouais.
C'est des mecs qui ont un peu un pedigree, même s'ils n'ont rien fait dans le main roster. Ils ont été tag team champions à NXT, etc. On pourrait avoir un programme de 3 semaines,
2
semaines entre eux et les Ascension pour voir qui de ces deux équipes destructrices a le dessus. Bah non.
Allez. Et non. C'est parti, on précipite.
puisque donc, il va falloir qu'on mette hein, effectivement un title shot pour les Bludgeon Brothers très rapidement. Et alors qu'on, voilà, on va
ah, c'est vrai que
après peut-être qu'on va être trompé hein, peut-être que
oui écoute,
mais je trouve que sur le premier affrontement face à face dans le ring entre les Bludgeon et les Ascension, bah il aurait pu y avoir un peu plus de rapport de force des deux côtés. Là c'était vraiment unilatéral,
voilà, ça a été expédié,
dégagé quoi. Vous êtes vraiment qu'un ressort comique et
c'est ça. On pêche un peu par précipitation et en fait, ce qui fait, la façon dont SmackDown est construit depuis des mois fait que, bah en fait, maintenant, on s'attendrait presque en effet à voir un title shot arriver puisque c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Donc du coup, bah voilà, on a peut-être en effet une fois de plus, on s'est privé de 2-3 semaines de facile. De construction pour prendre son temps.
Et l'opportunité loupée de, comme dit Maxence sur le chat, hein, de redonner un peu crédibilité à The Ascension, hein, qui sont toujours là. Bon, bah, on peut les utiliser pour un petit programme comme ça, sans forcément leur donner des ceintures à terme, mais au moins, bah, voilà, utiliser leur gimmick, leur présence, leur catch. Non.
Et non, ils ont décidé autrement et c'est un peu dommage. Mais bon, écoute, on verra. C'est peut-être que Connor et Victor la semaine prochaine se rebelleront et viendront sécher les Bludgeon Brothers. J'ai du mal à y croire quand même vu la direction que ça prend. Mais bon, on sait jamais. On va continuer avec un petit peu de backstage et une promo. Le veut la tradition, puisque c'est Mojo Rawley qui backstage nous annonce qu'il va défoncer Zack Ryder la semaine prochaine, le laisser dans le passé. Donc voilà, Mojo est maintenant méchant, Mojo est intense, Mojo fixe la caméra et Mojo va battre Ryder la semaine prochaine puisqu'ils sont l'un contre l'autre dans les quarts de finale du tournoi pour la ceinture des États-Unis vacante. Ce tournoi qui continuait cette semaine justement avec le troisième quart de finale entre Xavier Woods et Aiden English. Aiden English, donc pas de Rousseff dans le tournoi, mais Rousseff est bien sûr ici présent pour introduire son ami, son partenaire, Aiden English, donc la paire toujours aussi over, hein, qui est au milieu du ring, les chants Rousseff Day qui retentissent. Aiden English qui s'apprête à chanter, mais non, cette semaine, écoute Aiden, c'est toi qui catch, et donc c'est Rousseff qui va lui faire les honneurs d'une petite introduction en chanson. Rousseff qui se fait probablement un malin plaisir de chanter faux et de manière absolument horrible, donc c'est toujours assez rigolo.
Je l'ai trouvé, moi, je chantais bien.
Nickel. Donc il nous chante une petite chanson à la gloire du Rousseff Day. Et donc, le match commence. Bon, alors je vais pas vous faire le play-by-play, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était, en tout cas, ma foi, un petit match de 5-6 minutes fort sympathique. Moi, je suis toujours très agréablement surpris de voir le catch de Aiden English quand il a l'occasion de le dérouler. Puisqu'il est, il est plutôt assez intéressant dans le ring, avec toujours une jolie petite sit-out spinebuster qui est pas mal. Et puis Xavier Woods, moi, qui me plaît de plus en plus, puisque c'est vrai que 2017 a été l'année du New Day, mais a aussi été d'une certaine manière un peu l'année de Xavier Woods dans le New Day, parce qu'il s'en servait de plus en plus dans les matchs par équipe. On a eu de plus en plus l'occasion de le voir dans le ring, et ça continue d'ailleurs en solo. C'est peut-être pas innocent non plus que ce soit lui qui a été choisi pour représenter le New Day dans le tournoi US. Il fait des bonnes prestations en solo et il l'a confirmé encore avec un joli petit enchaînement torture rack converti en lumbar check qui était assez sympa, et puis son finisher qui est toujours efficace, hein, le springboard elbow drop à travers le ring qui marche bien. Donc voilà, une victoire évidemment de Xavier Woods, puisque pour ceux qui avaient jeté un petit coup d'œil aux brackets, hein, à l'arbre du tournoi, le vainqueur était promis à Jinder Mahal en demi-finale. Donc le choix semble assez logique. Et d'ailleurs, donc...
Je suis pas d'accord.
Ah.
Je suis absolument pas d'accord, le choix semblait pas logique. En tout cas, moi, je trouve que mettre un membre du New Day dans le tournoi, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, puisque New Day, même si effectivement ils ont en différence, ils peuvent avoir des matchs en simple, c'est quand même une équipe. Je pense qu'ils n'avaient pas besoin de ça pour l'exposition. Je pense que ce spot, si on regarde le bracket, aurait largement plus servi à un autre catcheur, par exemple des catcheurs qui sont pas souvent utilisés. Je pense à Mike Kanellis par exemple, hein. Je sais
Ah,
pas
c'est sûr qu'il y a
si.
beaucoup d'absents. Non, ce tournoi était étrangement réduit, on va dire, hein, avec seulement 8
C'est
catcheurs
ça, il y a 8
impliqués.
catcheurs. En même temps, bon, le roster SmackDown n'est pas non plus infini, hein, donc ils ont mis à peu près tout le monde dans le tournoi qui n'a pas un programme. Il manquerait juste Orton et Nakamura, quoi.
Ouais.
Et Mike Kanellis qu'on n'a pas vu. Alors, je sais pas s'il est passé ou pas,
Ouais.
mais déjà, j'aurais bien vu un Mike Kanellis versus Aiden English, plus qu'un Xavier Woods. Mais bon, soit c'est un Xavier Woods qu'on avait contre Aiden English, bah, j'aurais quand même vu Aiden English l'emporter. Peut-être avec une filouterie de Rusev s'il faut. Mais en fait, du coup, je vois pas bien ce que ça va nous apporter vraiment. Ouais, est-ce qu'on va aller vers un New Day versus Mal et les Singh Brothers? C'est ça le payoff de ça en fait, l'histoire, hein. Je trouve pas ça vraiment intéressant. J'aurais trouvé que avec le Rusev Day qui est en pleine hype, etc., moi, en termes de spectateurs, j'aurais préféré voir Aiden English l'emporter pour donner une victoire en simple, même avec une filouterie, et voir la semaine prochaine le Rusev Day, enfin du moins Aiden English versus Jinder Mahal avec les Singh Brothers et Rusev aux abords du ring, et avoir un vrai moment de presque face pour le Rusev Day en opposition avec l'écurie du moderne des Maharaja. J'aurais trouvé que ça aurait été plus intéressant, plus savoureux, plus original aussi que de voir les New Day, qui d'ailleurs commencent à me gonfler avec leur pancake là.
Ah oui, alors là,
À un moment
ça
donné,
devient impressionnant, hein.
ouais, non, il y a Biggie qui débarque, qui fait un gamin qui est au bord de la barrière, genre ouais, t'en veux, alors que le gamin l'a demandé, donc tu vois, le gamin commence à reculer. Et il lui déverse un paquet de céréales rempli de pancakes cuits mous.
Ouais.
Je fais, mais ok, t'as des chances, soit un gamin et qu'il soit tout content. Mais moi, tu me fais ça, mec, mais ça se passe mal, quoi. Tu finis avec ma bière dans la gueule, quoi. Et je t'ai juste stone cold, quoi. Et je sais pas, à la fin, ils se mettent face caméra avec Xavier Woods qui est tout avachi sur la ceinture US. Et Biggie qui arrive et commence à manger en gros plan des pancakes. Il les sort de son
Oui,
slip.
bon,
Je sais
l'angle
pas,
pancakes ne fonctionne pas
putain,
avec l'amiral.
c'est pipi caca à deux balles, quoi. C'est vraiment, on est au niveau là de ce qu'ils ont fait, quoi. On retrouve le New Day à l'époque où ils étaient dans les FUD avec le Old Day et les couilles dans le bocal avec Gallows Anderson à Raw dans les heures les plus sombres de notre
C'est les
histoire,
heures les
quoi.
plus sombres de notre histoire,
C'est
ça, en
ça. Et je
effet.
trouve que ouais, non, ils peuvent tellement faire des trucs plus intéressants. C'est pas ça, quoi. Là, c'est la facilité. C'est du niveau de John Cena qui déverse des seaux de merde sur Vicky Guerrero et Dolph Ziggler, quoi. On n'en est pas loin, quoi. Donc j'espère qu'ils vont un peu reprendre des choses plus intéressantes dans leur gimmick et se détacher un peu de ce côté très, très enfantin.
Ouais, bon, écoute, ça c'est quelque chose qui en effet, bon, difficilement discutable, hein. C'est vrai que le New Day, bon bah ils ont des, c'est assez inégal dans leur, on va dire dans leur promotion de leurs produits dérivés. Bon bah là ils ont un mix de pancakes à vendre manifestement, donc du coup c'est, ils ont rien trouvé de mieux que de faire ce genre de truc. Bon, on verra le temps que ça durera, mais en tout cas pour revenir juste sur tes observations pour la semaine prochaine, c'est vrai que, bon, écoute, ton scénario me plaît bien. Après, moi j'avais pas spécialement vu le souci avec la direction qu'il prenait là, sachant que pour moi ça n'empêchait pas du tout le Rusev Day de venir se venger pendant le match, par exemple la semaine prochaine, et continuer leur feud avec le New Day en les faisant perdre. Ce qui fait que Jinder ramasse une victoire facile et continue. Mais bon, écoute, les deux pistes se valent. Je pense que de toute façon, ils n'ont pas abandonné cette feud entre le New Day et le Rusev Day. Je pense que
Non.
ça peut continuer. Donc.
De toute façon, on sait que c'est Bobby Roode qui va gagner à la fin. Oh, mais c'est vrai, attends, tu regardes le bracket, j'ai devant les yeux, on va avoir en demi-finale Jinder
Bobby
contre
Roode
Xavier
contre.
Woods, donc c'est Jinder qui va être en finale.
Ouais.
Et de côté, on va avoir Bobby
Bobby
Roode
Roode
contre
contre Mojo
Mojo.
Rawley, c'est
Voilà.
sûr. Ouais.
Oh, je pense quand même que c'est Bobby Roode qui va l'emporter, donc on aura Bobby Roode Jinder. Bon, à
Écoute, je
moins
sais pas,
qu'il y ait
peut-être un push de Mojo Rawley, on ne sait pas. Hein.
Bah, il paraît
On va
hein,
voir.
qu'ils veulent faire un push, mais bon,
Ouais,
à un moment
qui
donné,
sait.
Bobby Roode va bien falloir lui donner un truc. Hein. Donc,
Ouais, c'est
non, non,
compliqué.
non, Maxence, Jinder ne va pas gagner la ceinture US. Hein. Je n'y crois pas.
J'aimerais bien voir Jinder avec la ceinture US, mais bon,
Ah
écoute,
là
on verra.
Le
On
mec
verra.
incroyable, quoi. Après avoir salopé pendant 6 mois la ceinture mondiale, tu veux qu'il salope la ceinture US, quoi.
Non, non, mais
Là.
j'apprécie que Maxence soit là pour apporter du
Ouais.
soutien
Mais.
à la Jinder Army.
Mais en fait, moi, ce qui me poserait problème avec Jinder et la ceinture, vraiment, c'est qu'en fait, ça serait le même répertoire que la ceinture mondiale. C'est
Oui.
ouais, vous, Américains, machin, moi, ma grande nation d'Inde.
Ce serait plus
Ça
adapté
serait
du coup.
voilà,
Mais
ça
oui,
serait la
mais
même chose.
ce serait
Ce serait la même
horrible.
chose qu'il a faite, qui était la même chose qu'avait fait Kevin Owens X mois avant lui, hein, avec The New Face of America. Donc, du coup, c'est bon, on en a assez soupé. Mec, ça a déjà été fait, ça a déjà été fait par quelqu'un de beaucoup plus talentueux que toi. Donc, c'est marre, tu vas tranquillement te coucher devant Bobby Roode, et puis c'est marre. Voilà.
Allez, allez,
Narios!
à la suite. On va passer bah, chez les filles. Et les filles, bah voilà, c'est, on aimerait mettre un mouchoir blanc dessus chaque semaine, mais bon, il est de notre devoir d'en parler.
Oui.
Donc bah les filles, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On a eu un petit segment backstage avec Natalia, Tamina, Carmella et Lana, hein, les Four Horsewomen de SmackDown.
Non, le Welcoming Committee, le
Et le
comité
Welcoming
de
Committee, puisque
bienvenue, c'est
justement,
tout.
elles ont bien rappelé que avant le Riot Squad, eh ben, il y avait eu le Welcoming Committee. Et oui, on s'en souvient, un souvenir vivace, hein, parce que
Non.
c'était tellement percutant. Et donc, du coup, bah, ce soir, elles vont donner une petite leçon à ces jeunes et leur rappeler pourquoi le Welcoming Committee est la force à respecter à SmackDown. Et donc, nous avons un petit 3v3, Natalia, Tamina et Carmella, hein, puisqu'il faut arrêter de déconner, Lana reste aux abords du ring. Contre le Riot Squad, donc qui s'est payé d'ailleurs un petit t-shirt là cette semaine,
Bah, comme l'Absolution, hein,
comme
l'Absolution l'a eu lundi,
l'Absolution,
donc
hein,
forcément, le
voilà,
lendemain, bah, Riot Squad a le même. Hein.
faut continuer de bien coller comme
Ah bah ouais.
ça évite de voir les Liv Squad sur le futal de Liv Morgan, c'est toujours mieux. Et donc du coup, bah écoute, on a un match sur lequel j'ai pas spécialement grand chose à dire, un match de 5
Bah non.
minutes. Allez, si on va dire qu'il a été propre, c'est vraiment le seul compliment qu'on peut faire à ce match-là.
Il y a quand même eu un Samoan Drop bien dégueulasse de la part de Tamina sur Sarah Logan. Hein.
Oui, un Samoan Drop
Ah,
en effet un
il
peu
était moche. Il
dégueulasse,
était très moche.
et qui était assez crado. Bon, ouais, en fait, c'était même pas propre, donc on va dire que c'était OK. Donc, bah, victoire des vilaines, hein, Ruby Riott, Sarah Logan et Liv Morgan. Donc victoire et bah Ruby Riott du coup qui prend le micro, donc au moins s'ils ont compris une chose cette semaine, c'est que maintenant il faut plus faire parler les deux autres. Donc Ruby Riott entreprend une petite promo
Yeah, ouais, comme disait mon oncle quand on
quand on chassait le
chassait.
caribou. Donc du coup Ruby Riott qui nous explique que bah écoute on nous fait une promo ultra cliché qui avait le mérite d'être à peu près intense on va dire, mais voilà, que le public vit dans le déni, vit dans l'illusion et qu'ils ont besoin d'une bonne grosse dose de réalité et que bah, le Riott Squad est là pour leur apporter cette dose de réalité et que bah, ils vont intégrer le Royal Rumble toutes les trois et tout casser et donc bah voilà, casser, briser la magie et les
Oui.
rêves et patati et patata.
En
Ce
gros,
sur
la même promo que quasiment que
que
l'Absolution a fait la veille. Hein.
Absolution,
On va être dans le
ça.
Rumble, on va demi Rumble. Merci les filles.
Ah, merci. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? La musique de Charlotte, la championne. Charlotte retentit pour nous sauver. Charlotte qui arrive et qui se moque un petit peu des trois méchantes et leur dit que elle va introduire une personne qui va se venger avec elle des actions innommables, insoutenables hein, du Riot Squad depuis qu'ils sont arrivés. La musique de Naomi, hein, Orlando's own Naomi, la régionale de l'étape qui arrive toute fluo, qui sautille. Mais ce n'est pas tout, puisque Charlotte a une autre personne à introduire, une personne qui elle aussi veut se venger et veut rectifier cette situation après avoir été écartée à cause du Riot Squad. Et là, nous avons la musique de Becky Lynch. Becky Lynch qui est donc de retour et les trois qui se ruent sur le ring pour faire place nette. Donc les méchantes qui bien évidemment se carapatent et donc nous avons cette jolie scène finale avec donc les trois gentilles qui sont au centre du ring victorieuses. Alors au-delà du fait que ce segment bon fasse pas avancer grand-chose à part faire revenir Becky Lynch et nous montrer encore le trou noir de charisme là que sont le Riot Squad. Qu'est-ce que tu penses un petit peu? Bon, moi je trouve, hein, mais bon.
Trou noir de charisme, quand dans des divisions féminines, tu as Tamina,
Ah
bon,
oui,
je
mais
pense,
j'ai pas dit que c'était le seul trou
et
noir, hein.
Natalia, tu peux pas
Il
trop
peut y en
passer
avoir
avec elle.
plusieurs, hein. C'est
Ah
savoir
oui.
lequel va être le plus gros et qui va absorber tout le
Oui, bah,
reste.
ça, le problème, c'est que ça s'attire, à moi, la gravité s'attire les trous noirs.
C'est ça. Mais donc, qu'est-ce que tu penses? Parce que moi, j'ai écouté votre Raw de cette semaine. On parle beaucoup pour le Rumble de Asuka, on parle de Paige. Mais on ne parle manifestement pas dans les pronostics des filles de SmackDown. Alors, est-ce que Becky Lynch n'a aucune chance pour toi? Qu'est-ce qui va se passer pour SmackDown au Rumble là?
Alors, non, Becky Lynch, elle revient. Déjà, on ne savait pas quand est-ce qu'elle allait revenir. Elle était en tournage avec le Miz. Il avait vendu une blessure quand le Riot Squad est arrivé. Est-ce qu'elle reviendrait? Est-ce qu'elle revenait avant ou après le Rumble? On ne savait pas. Donc maintenant, elle revient, ça change le truc. Ça pourrait être une bonne façon de la réintégrer, hein, Becky Lynch.
Et là, c'est une chance.
Est-ce qu'elle a une chance? Bah oui, toute personne a une chance qui rentre au Rumble. Ah. Hein, quand on regarde dans les histoires du Rumble masculin, les gagnants, on peut dire que tout le monde a une chance. Bien sûr, d'autres beaucoup plus que d'autres. Après, pour moi, comme je le disais dans mon analyse à Raw, Asuka, je la vois pas gagner, c'est trop, trop simple. Donc je pense que Becky Lynch et Paige ont plus de chances de gagner qu'Asuka. Pour cette raison-là. Voilà. Après, le Rumble, bah, je ne peux pas déterminer. De toute façon, ils ont annoncé qu'il y aurait 30, donc 30 participantes. Hein,
Oh bah elles y seront toutes, hein, c'est sûr.
il y a tout le monde et même il manque du monde. Comme je
Et
disais
il manque du
tout le
monde.
temps, je pense que
Ouais.
même ma sœur sera au Rumble. En fait,
Ouais.
hein, elle a des chances d'être au Rumble, ma sœur. J'en
Écoute,
ai pas,
c'est tout le mal qu'on lui souhaite.
mais. Voilà. Donc, du coup, il va y avoir forcément du retour d'anciennes championnes ou d'anciennes catcheuses. Peut-être des Bella, peut-être du Lita, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il peut y avoir aussi du call-up de NXT, du Mae Young classique. On ne sait pas. Il y en a qui disent Ah, Ronda Rousey, on n'en sait rien. Donc c'est super
Ouais.
compliqué de déterminer qui va
Très
gagner.
compliqué. Ouais.
Maintenant, je pense que sur les catcheuses qui sont actuellement dans le roster de Raw et SmackDown, si je devais placer une pièce sur quelqu'un aujourd'hui, je dirais effectivement bah, j'en place une sur Paige, une sur Becky Lynch.
Bon.
Je dirais que ce serait les plus intéressantes.
Me
Maintenant, bah,
voilà rassuré.
sur SmackDown, hein, ce qui m'a un peu gêné, c'est qu'au final, on a d'un côté maintenant le Royal Squad, on a le Welcoming Committee, et on a quoi maintenant l'équipe
L'équipe
PCN,
est... Ouais, c'est ça.
Charlotte, Becky et Naomi. On revient à l'équipe bas de l'équipe BCB, je sais pas quoi, enfin l'espèce de truc tout pourri qu'on avait
Ouais.
avant le Brand Split.
On a trois trios là. Ouais.
Trois trios avec qu'aucun vraiment finalement légitimité ou raison d'exister quoi. D'un côté t'as les trois faces, après t'as deux trios de heels mais qui sont pas les mêmes parce que tu comprends, elles sont pas toutes copines entre elles.
Et puis, bah, t'as les trois jeunes qui
C'est
veulent faire leur
chiant.
trou, quoi.
Ouais.
Voilà. Ouais, non, mais bon, voilà. Il n'y a pas de. Encore une fois, on se dispense un petit peu d'écrire des histoires. Et puis, bah, on les met toutes ensemble. Elles ont encore réussi à être toutes ensemble dans un segment. C'est la magie SmackDown chez les filles. Vous avez, chaque semaine, vous aurez votre petit segment avec les 10 filles du roster maintenant, parce qu'il n'y en avait que 9 jusqu'à cette semaine. Les 10 filles du roster qui seront là pendant 5 minutes et qui feront des trucs. Et puis, à la semaine prochaine. Allez, on va continuer et on va continuer avec un petit peu de backstage puisque après la promo de Mojo Rawley, nous avons eu aussi un face caméra magnifique du
Hey!
Baron Corbin qui n'est pas content. Baron Corbin.
Je suis le solitaire, ok? Et je vais
Donc,
rentrer au Royal Rumble, ok?
voilà, il nous annonce que le Royal Rumble c'est parfait pour lui. Que lui, il roule pour lui, et donc 1 contre 29 autres personnes, c'est parfait, il va tout casser, il va tout gagner, il est pas content. On y croit. On y croit. Allez, le baron, c'est pour toi. Bon, on enchaîne, et bah écoute, on va arriver au main event de la soirée. Alors, on va rembobiner un tout petit peu, parce qu'un peu plus tôt, dans la soirée, on a eu une petite promo backstage un peu assez fun. Moi, je suis toujours client et je trouve qu'ils sont très forts. Sami Zayn et Kevin Owens qui étaient interviewés par Renee Young et qui sont dans leur style de duo tête à claque absolument impayable. Et donc Renee Young qui venait avec comme question de savoir si bah écoute Sami Zayn, vous allez affronter AJ Styles ce soir. Est-ce que ça va être différent de la semaine dernière où vous étiez intervenu pour faire gagner Kevin Owens? Kevin Owens qui coupe Renee Young tout de suite. Attends, qu'est-ce que c'est que cette question stupide? Ce qui est différent à la limite, c'est le stade dans lequel on est. Enfin, c'est la ville. Mais par contre, ce qui est sûr, ce qui va pas changer, c'est que AJ Styles va encore perdre et que et que du coup, Sami Zayn va triompher et double yep et triple yep. Sami Zayn qui nous fait d'ailleurs, bon, je l'ai plus en tête, mais un petit botch, un petit lapsus que relève avec malice Kevin Owens en se moquant un peu de lui. Mais donc voilà, bon, du coup, une petite promo un peu marrante et on arrive directement au main event. Sami Zayn contre AJ Styles, avec bah, tout ce beau monde au bord du ring, Daniel Bryan, Shane McMahon et Kevin Owens. Un match personnellement beaucoup plus fun que la semaine dernière de mon côté, 14 minutes à peu près. L'alchimie, je trouve, entre les deux, entre Sami Zayn, peut-être que Sami Zayn a un moveset et un style qui est aussi un peu plus compatible avec, avec AJ Styles, mais toujours est-il que moi j'ai trouvé j'ai vu un match assez dynamique, avec de très très beaux spots, très rapides. On n'a pas eu.
Sami Zayn a un catch plus rapide que celui de Kevin Owens, ça c'est sûr.
Sami Zayn a un catch plus rapide. Je trouve qu'on n'est pas forcément tombé dans les poncifs habituels de faire ralentir Sami Zayn son catch et de faire des longues périodes de domination. On a eu quelque chose de vraiment assez back and forth, comme disent les Américains. Donc à toi, à moi. Très fun à suivre. Et évidemment, tout s'emballe quand. Et les acteurs qui étaient là pour a priori garder l'action clean, bah, quand ils finissent par s'en mêler, forcément. Kevin Owens, qui sent que la situation dérape, tente d'intervenir. C'est à ce moment-là que Shane McMahon, voyant une nouvelle fois la situation lui échapper, veut faire justice lui-même et donc demande, donc pousse Kevin Owens, hein, en vient aux mains, et demande à l'arbitre donc d'exclure Kevin Owens des abords du ring. Écoute, ma foi, pourquoi pas, sortons les trublions de l'arène, mais Daniel Bryan prend le micro et dit bah écoute, si on doit sortir tous les fauteurs de troubles, eh ben Shane, je t'invite à faire de même et à suivre Kevin Owens et à sortir de l'arène. Alors regard un petit peu interdit de Shane qui fait qu'est-ce qui se passe là, on va se calmer, mais bon, toujours est-il que la confusion est totale aux abords du ring, et s'il y en a bien un qui n'est pas confus et qui a tout compris, c'est Sami Zayn qui lui profite de tout ce beau bordel pour aller placer un hell of a kick dévastateur et magnifique sur AJ Styles. L'arbitre du coup n'a plus d'autre choix que de revenir dans le ring et d'arrêter de s'occuper du reste pour compter, et victoire 1, 2, 3 de Sami Zayn qui l'emporte une nouvelle fois comme un filou dans la confusion. Kevin Owens et Sami Zayn, c'est voilà, les rois du chaos. Ils sont injouables quand la situation dégénère comme ça. Donc du coup, c'est le bordel. Styles n'est pas content. Ça fait deux semaines de suite maintenant qu'il se fait battre. 1, 2, 3, sans discussion au centre du ring. À chaque fois sur des distractions, des diversions, du bordel. Cette fois, c'est la semaine dernière, c'était Shane. Cette semaine, c'est un peu Shane, mais c'est aussi quand même, il dit voilà, il en veut un peu à tout le monde, et donc il dit écoute, moi Kevin Owens, Sami Zayn, j'en ai marre, j'ai pas de problème, je peux les battre, même s'il y a deux contre un, je peux les battre, il y a pas de souci. Donc moi la semaine prochaine, donnez-les-moi à deux contre un, je les prends. Et alors là, Daniel Bryan prend le micro, monte sur la table et choque le monde en annonçant écoute, c'est une bonne idée, mais c'est une très très bonne idée, bah écoute. Alors là, tu vas affronter les deux au Royal Rumble. Là, on s'attend bien évidemment à ce qu'il annonce un triple threat, ce qui semble le plus logique. Eh ben non, tu vas les affronter en handicap match pour ton titre au Royal Rumble. Ils montent, yes, yes, yes. On entend poindre à l'horizon dans le public des no, no, no. Le public semble ne pas comprendre la réaction de son GM préféré. Et on finit cette émission dans la perplexité la plus totale. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé cette conclusion. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, Alain? Ouais,
très, très bien. Très, très bien booké. Le match, le match était bien booké aussi. J'ai adoré donc la fin, la confusion, avec donc, du coup Styles qui pousse Zayn, qui rentre dans l'arbitre, et l'arbitre tombe à l'extérieur. Oui. Et Owens qui va voir l'arbitre, genre « Non mais ça va, t'es pas blessé, non mais attends, faut que je vérifie, etc. » Et je trouvais encore une fois le jeu de filouterie d'Owens
très très fort.
Très, ouais. Très juste et très fort. Et donc du coup, après voilà, cette conclusion un peu choc, ça y est, on commence à avancer un peu plus dans cette rivalité avec, là pour la première fois, peut-être… Daniel Bryan qui prend une décision ouvertement très discutable. Jusqu'à présent, on pouvait comprendre son point de vue. On pouvait comprendre son point de vue parce qu'il y avait d'un autre côté Shane qui faisait un peu l'orgueilleux, qui mettait de l'ego dans tout ce qu'il faisait. Donc Daniel Bryan qui se faisait la voix de la justice, de l'équilibre et du milieu. Là, ça y est, avec ce côté handicap match.
Incroyable.
Ça révèle forcément une motivation qui est autre pour Daniel. Qu'est-ce qu'elle est, par contre, on ne sait toujours pas. Donc c'est bien, ça nous laisse toujours dans le suspense. Et aussi, bah, comment ça va se passer cette histoire à Royal Rumble? Parce que bon, ok, handicap match. Ça veut dire que bah, normalement, il sera toujours que un contre un dans le ring, mais les autres vont pouvoir taguer. S'il gagne, comment ils font pour la ceinture?
Eh oui, question.
Est-ce que
Comment ça se
c'est
passe?
celui qui se fait
Est-ce
tomber?
que ça s'est déjà vu historiquement, ça, un handicap match
Qui gagne une
pour.
ceinture?
Ouais.
Ah, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Bonne question d'ailleurs. Dans tous les cas, voilà. Est-ce que ça peut être aussi une raison peut-être de dissension? On peut imaginer entre Zayn et Owens.
Peut-être.
Ils sont là, ils ont le dessus. Il y en a un qui fait tomber sur Styles et l'autre qui
Hop, hop,
rentre,
hop,
qui
hop,
fait non,
hop.
non, c'est à
Ouais.
moi de faire le tomber. On sait pas. Bref, il y a plein de possibilités. Donc sur la suite, ça peut être très intéressant. Dans tous les cas, voilà, on se pose encore des questions. Je trouve qu'il la boucle bien cette intrigue. Le point noir, c'est comme je disais au début, c'est que c'est la seule vraie intrigue de SmackDown.
C'est ça. C'est un peu le souci. Alors, elle est, moi, je trouve qu'elle est diablement bien écrite et elle est très intéressante parce que voilà, justement, on ne dévoile pas toutes les cartes d'un coup. Chaque semaine a son rebondissement et chaque semaine a ses nouvelles questions. Mais c'est la seule. C'est la seule histoire. C'est la seule histoire. Mais bon, en tout cas, elle a le mérite d'être vraiment aux petits oignons. Et là, bon, bah oui, comme tu dis, Daniel Bryan semble prendre position. Et moi, j'ai bien aimé et c'est, et d'une certaine manière, c'est aussi la preuve que c'est bien raconté et que c'est bien écrit. J'ai bien aimé que bah, le public aussi se pose des questions, quoi. Enfin, le public n'a pas complètement fait suivi comme des moutons le yes 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 de Daniel Bryan. Et moi, ça m'a beaucoup rappelé, tu vois, les débuts de la gimmick du yes yes yes. En fait, je retrouvais un peu le sourire un peu maléfique un peu de Daniel Bryan quand il avait lancé ça. C'était à l'époque où il était en rivalité pour le titre poids lourd qui existait encore contre Mark Henry et le Big Show. C'était un petit connard de première et qui du coup surexagérait ses prouesses totalement imméritées et avait lancé de ce fait un très ironique yes 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 qui est devenu ce qu'on connaît maintenant aujourd'hui. Mais la raison première du yes à la base, c'était il l'avait lancé pour un peu pour par ironie totale et contre la réaction du public. Et on retrouvait un petit peu cette scène où bon bah voilà, là, il prenait quelque chose qui était complètement à rebours de ce chant et le public qui n'accrochait pas. Et je trouvais que c'était très fun. Donc bah écoute, bravo. Et puis bah maintenant j'ai bien hâte de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine. Ce qui nous conduit au mot de la fin, mon cher amiral.
Yes.
C'est l'heure du top, c'est l'heure du flop et de la note.
Alors, bah, le top, ce sera effectivement bah, le booking, ce finish qui nous donne envie de voir la suite la semaine prochaine. Hein. Donc, c'est très bien, c'est simple, c'est comme ça que devrait être chaque finish de chaque show. Mais c'est rarement le cas, donc quand ça, il faut souligner. Mon flop, ça sera bah, pareil, je vais rester sur du booking, hein, puisqu'il n'y a personne qui a fait des prestations dégueulasses. Cette semaine, mais ça va être au niveau de, voilà, de cette trop récurrence de matchs de championnat en weekly qui fait perdre la saveur à ces moments qui devraient être un peu plus exceptionnels. Et ma note au-delà de tout ça, bah, écoute, pour un SmackDown qui démarre l'année 2018, je vais mettre un 3.
Eh ben, c'est pas mal, c'est un petit 3.
Voilà.
Eh ben, écoute, bah, moi, ma note, elle est un tout petit peu au-dessus, parce que j'ai mis 3,5.
Ouais.
3,5, ouais, j'ai mis une bonne note, j'ai pris pas mal de plaisir devant ce SmackDown, où finalement, j'ai trouvé à peu près tout top, sauf les filles. Même si, voilà, je vais pas beaucoup plus haut, parce que je suis assez d'accord avec toi, j'avais la même analyse que toi, on a un peu qu'une seule rivalité, enfin, une vraie rivalité, et le reste vivote parce qu'on a du bon catch, et parce qu'on a des bons talents dans le roster, mais. On aimerait avoir un peu plus de consistance. Mon top, bon, c'est le même que toi, je peux difficilement te donner autre chose. C'est ce finish avec Daniel Bryan. Et précisément avec ce finish avec Daniel Bryan, parce que le glissement sur plusieurs semaines de son personnage est vraiment très très agréable à suivre, je trouve. Très bien fait. Et puis bah, mon flop, bah, moi je vais le donner à la ficelle qui est un peu trop grosse de ce replay utilisé là pour le finish des tag team qui. Il a beau été avoir plutôt bien exécuté pour une fois, je trouve que, je crois que c'est Raphaël une fois qui avait fait ce commentaire qui est très juste, je trouve que j'ai toujours un peu du mal quand la WWE met volontairement en scène l'incompétence de ses arbitres et elle le fait un peu trop souvent. Et alors en plus quand du coup tu viens corriger avec des choses qui sont vraiment à géométrie variable comme le replay qui n'est jamais utilisé en temps normal, moi ça me bloque un peu. Donc voilà, je vais mettre mon flop là-dessus. Ce qui conclut notre émission, c'est le premier SmackDown de l'année. Et puis, bah, donc, du coup, il ne me reste plus qu'à dérouler les crédits. Hein. Vous pouvez nous retrouver, comme toujours, sur, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook, sur la page Catch-up. Sur le Twitter. Alors là, on a changé de Twitter handle, non ? C'est @ketchup,
non ?
@ketchupcdc. Et puis, bah, après, pour les supports, c'est sur PodCloud pour l'audio, sur YouTube pour voir nos petites têtes. Coucou à tout le monde. Bah, écoutez, likez, laissez des commentaires, aimez-nous, aimez-vous, continuez à kiffer le catch et ouais. Et puis, bah, nous, on vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde.
Salut.
Et...